donc justement l'annonce qui m'a été destinée est la suivante. Donc lors du passage ou de la transplantation de sources de vie, disons, il y a un petit tributaire qui est arrivé sur Ouattini, donc il y a plusieurs mois. Un beau dimanche après-midi, nous avons fait une petite sortie, danse dans la cour, louange, et puis nous avons fait le tour du quartier. Et justement, c'est l'annonce que nous allons mettre en route une série de petites sorties et de prières autour de la maison Esther à partir de demain soir. Donc ça, c'est la première soirée. Parce que nous avons des choses à cœur, le Seigneur nous a promis des choses, et donc ça se prépare dans la prière. Donc finalement, pour vous dire que vous êtes invités, donc on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant parce qu'en fait c'était reporté, donc nous aurons d'autres amis qui seront là, et je pense que ça tombe à pic parce que donc mardi en 8, comme Jean-Luc a annoncé, nous voulons quand même démarrer avec ce petit groupe de maison. Et un groupe de maison, c'est quoi? C'est un groupe là qui rayonne dans un quartier, qui essaye de toucher quand même des voisins et des contacts. Donc je pense que pour cette raison-là, aussi parce que nous sommes dans une période de transition, nous voulons aller plus loin avec Dieu dans cette petite œuvre, donc la maison d'accueil. Et en fait, comme je vous ai déjà dit, je pense qu'il y a une maison à côté que le Seigneur nous réserve depuis peu. Et nous voulons donc, puisque c'est dans la même partie de maison, avec cette marche de prière, aller bénir le quartier et puis demander à ce que Dieu mette sa gloire sur ce quartier, sur cette ville également, comme nous avons fait et nous ferons toujours pour Wavrin. Et justement, on est passé devant cette autre maison. Ce n'est pas une maison pour nous, c'est une maison pour accueillir les personnes en difficulté. Et on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire ou dire, donc c'est pour cela qu'il faut continuer à prier. Mais en passant devant, cette semaine, j'étais avec un frère pasteur américain, et puis à deux, on était allé regarder, c'est lui qui était allé regarder par la fenêtre, donc du façade, et il me dit comme ça, « Il y a de bonnes choses dans cette maison. » Finalement, c'est une maison qui est maintenant vendue par nous, mais en fait à un voisin, qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Monsieur Clifford, je suis prêt, je serai prêt bientôt de voir un peu ce que pouvons faire avec cette maison afin que votre association puisse quelque part rentrer là-dedans. » Et donc, lorsque ce pasteur m'a parlé de bonnes choses, je peux vous donner la référence dans la Bible. Dieu a dit que nous allons rentrer dans les maisons remplies de bonnes choses. C'est dans la Bible. Lorsque Dieu le dit, il garde ses promesses. Ce n'est pas moi qui veux rentrer dans cette maison, mais je pense que Dieu réserve des maisons, des terres, des bâtiments pour son royaume. Ici, dans le nord de la France, on veut parler du nord, on n'est pas dans, mais en fait partout, parce que c'est un moment de grande, je dirais, expansion, de grande bénédiction pour la gloire de Dieu. Bon, non, je ne veux pas vous faire peur. Je ne veux pas vous faire peur. Donc, ne venez pas. Si vous ne croyez rien, si vous ne comprenez rien du tout, vous me téléphonez parce que bon, là je reconnais que vous êtes devant des choses que vous n'arrivez pas à saisir. Mais enfin, c'était l'annonce. Demain soir, nous faisons une petite marche de prière, une petite sortie, on peut dire marche, une petite sortie, pour bénir dans le quartier, comme nous avons fait déjà avec quelques-uns d'entre vous, avant l'été. Amen. Bon, pas beaucoup d'amen ce matin, c'est... Écoutez, on va essayer de vous réveiller avec le message. Et le message se trouve dans la parole de Dieu. J'ai trouvé mes notes en plus. Et je me disais, tiens, pourquoi donner le message? Parce que finalement, tout a été dit. Je veux répéter tout ce qui a été chanté ce matin dans l'adoration, tout ce qui a été dit dans les prières. Et je me suis dit... À quoi ça sert de donner un message? Parce que tout a été déjà dit. Et puis je me suis dit, non, ce n'est pas un post-scriptum, un message. Ce n'est pas un petit rajout là, donc pour faire plaisir. C'est comme un courrier qui arrive, et puis en bas du courrier, il y a des fois un petit mot, n'est-ce pas, écrit à la main, c'est toujours plus intéressant que tout ce qui est tapé. Mais en fait, je pense que le message pour moi, c'est la signature. C'est Dieu qui signe, hein, en rapport avec ce culte. Et on peut rentrer à la maison, normalement, j'espère, avec la signature, parce que c'est là, c'est la parole de Dieu. Tiens, hein, je rentre avec, et Dieu peut encore parler et reparler. Et je pense que c'est comme ça, justement, que moi, je suis tombé sur ce message cette semaine. C'était un peu amusant, parce que ce même pasteur, il était au petit déjeuner avec nous, et puis il commence à manger ses céréales, et puis en même temps, ça va très très lentement parce qu'il parle. Et puis il parlait de quelque chose qu'il venait de lire dans la parole de Dieu et de choses qu'ils avaient priées. Et puis finalement, on a eu deux petits déjeuners, les céréales, hein, Weetabix et compagnie, et puis la parole de Dieu qui nous a fait tellement de bien. Donc voilà, le titre du message, Paris-Dakar. Ben oui, non, mais puisque je voulais vous amener un peu dans le désert, hein, vous avez compris. Donc à chacun de prendre sa moto ou sa voiture, sa bolide, n'est-ce pas? Et en fait, pourquoi Paris-Dakar? Parce que, combien? Justement, j'ai l'article ici. Le Dakar de nouveau en état de choc. La Voix du Nord de mercredi. Donc ça, c'était le deuxième mort, justement. C'était, comment il s'appelle là, Mayoni. Oui. Et puis en lisant cela, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce qu'on témoigne dans cette traversée de désert qu'est le Paris-Dakar, des choses qui sont en commun avec ce que nous vivons aussi. Parce que le désert, comme c'est marqué ici, des fois, la vie d'un concurrent ne tient parfois qu'à un fil. Hein. Deuxième récit ici. Quand je roule depuis des heures, je me retrouve seul, que la nuit tombe, je ne suis pas loin de la crise d'angoisse. C'est malheureusement dans ces moments-là qu'on se désencontre et qu'on risque gros. Le Dakar n'est pas toujours tendre avec ceux qui contribuent à son mythe. Donc là, on est rentré dans un deuil. Et vous savez, c'est des fois comme ça. On laisse des morts dans le désert. C'est un lieu vraiment de grande mise à l'épreuve et de difficultés énormes. Et il faut réfléchir avant de participer dans une telle traversée, parce que ce n'est pas évident. Mais cette idée, je m'appuie là-dessus pour dire que donc Dieu aussi nous fait passer à travers les déserts. Amen. Je ne sais pas ce que c'est, ou ce que c'était votre désert à vous, mais il y a toutes sortes de déserts que nous ne devons pas courir dans notre vie tous les jours. Et donc, en essayant de retrouver ça dans le texte biblique, je suis tombé d'abord donc sur Deutéronome, chapitre 8, que je vous propose maintenant comme lecture, quelques versets. Parce qu'en fait, c'était là où Dieu s'est servi de ce passage obligé en désert comme une première école. Vous savez, vous avez tous fait l'école, comme moi également. Et je crois que donc le désert, c'est la meilleure école en rapport avec Dieu et sa manière de nous former. Hein? Donc nous allons lire le programme d'école dans ces premiers versets. Ben non, il faut que chaque école ait quand même son programme, il faut qu'on l'annonce à l'avance. Donc, chapitre 8 de Deutéronome, à partir du premier verset, et je vais quand même lire ces versets, parce que la lecture de la Bible est tellement importante. Justement, je pense à Josette, là, qui est conteuse, voilà, j'ai bien dit. Parce que tu l'as fait quand même au marché de Noël, et c'était formidable. Je pense que nous avons besoin d'entendre réciter, de lire à haute voix, pas seulement dans nos assemblées, mais aussi dans nos maisons et partout, cette parole de Dieu. Vous savez, c'est comme ça que les Israélites, ils vivaient. On les rassemblait sur les grandes places, dans le désert, n'importe où, et on lisait à haute voix la parole. Nous allons le faire. Premier verset. Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Et si tu observerais ces commandements, oui ou non. Hein? D'accord? Donc, histoire de notation, là. Oui ou non. Hein? Moyenne, enfin, en dessous ou au-dessus. Oui ou non. C'est clair. Il t'a humilié, verset 3. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque, comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. Donc, c'était un problème quand même d'éducation, de base, pour Israël. Parce qu'ils venaient de sortir d'Égypte avec une mentalité d'esclave. Ils n'avaient jamais vécu tout ce qui était pédagogie. Et Dieu s'est permis quand même de le proposer, ce programme, pendant les 40 ans de traversée du désert. Ah, c'est dur de ne pas sortir pendant 40 ans d'une école, une école aussi qui était dans, où il y avait des conditions particulières qui régnaient. Mais en fait, à travers tout ce passage, comme nous venons de lire, ils voulaient trouver le fond de leur cœur. Ils voulaient découvrir Dieu, ce qu'il y avait à l'intérieur, quel était le potentiel, est-ce qu'il avait la possibilité vraiment de lui faire confiance. Parce qu'au bout de ces 40 ans, il leur avait déjà proposé un cadeau incroyable. Mais oui, sur le plateau, il leur proposait, bien emballé, n'est-ce pas, la terre promise. Mais à condition qu'ils passent par l'école de la foi et de l'obéissance. Et je pense que c'est toujours comme ça avec nous, hein. Dieu, il a cette qualité de paternité tellement parfaite que finalement, il fait tout, il se permet tout au niveau pédagogique pour retrouver des fils et des filles qu'il peut bien aimer parce qu'il est fait pour aimer, c'est un Dieu d'amour. Et donc, c'est pour cela qu'on passe par les déserts. Il veut aller au fond de notre cœur et de voir s'ils ne sont capables vraiment, d'une manière, je dirais, volontaire, de lui faire confiance. Donc c'est pour cela. Il y a différentes traversées, les différents problèmes, les pannes, comme on a vu à Paris-Dakar, hein, des moments là où on ne sait plus, où la voiture est plantée, il faut creuser en dessous, n'est-ce pas, pour sortir du sable. Oui. Toutes ces circonstances, genre kamikaze des fois. Là, je rigole parce que l'autre jour, je ne sais pas, j'étais quelque part et c'était comme si le Seigneur me disait, écoute, Yann, tu étais un peu trop kamikaze là. Il faut quand même mûrir un peu là. Hein. Non, mais il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais il veut mettre le doigt là-dessus. Et puis la deuxième chose, pour aller plus vite, donc, il leur a fait passer par la pauvreté. Dans le désert, tu es dépouillé de tout. Ben oui. Parce qu'en pouvant dépendre et en s'appuyant sur ce qui nous donne quand même un certain sens de satisfaction, d'épanouissement de notre identité, dans la vie, on n'a pas vraiment besoin de Dieu. Donc Dieu permet des moments désertiques pour que nous puissions revenir à lui. Il fait ça avec son cœur de Père, tellement il nous aime. Et les déserts ne sont pas nécessairement dans les moments, je dirais, de difficultés au niveau matériel. Ça peut être à tous les niveaux, ça peut être même au niveau émotionnel. À l'intérieur de nous, il y a toutes sortes de déserts, n'est-ce pas, qui se présentent. Cette aridité, cet isolement, solitude, tout ça aussi, ça peut représenter un désert. Amen. Et puis donc, pour terminer, en rapport avec cette introduction, Dieu voulait leur faire découvrir comment se nourrir, ce dont on avait vraiment besoin dans la vie. Parce que comme c'est marqué là, l'homme ne vivrait pas par de pain seulement. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que la manne qu'ils ont dû récolter chaque jour dans le désert, vous savez, cette provision miraculeuse, mais elle avait été annoncée par la bouche de Dieu. C'était une parole de Dieu qu'il avait créée. On n'avait jamais eu un tel pain, une telle provision. Donc c'était aussi un signe du fait que Dieu, à travers sa bouche, par sa parole bénissante et pourvoyante, sait comment nous satisfaire à tous les niveaux. Amen. Donc en lisant dans un autre texte, toujours donc pour terminer ce petit passage, ou cette petite introduction, je lisais donc du fait que Dieu voulait qu'ils se souviennent à un moment donné, c'est en Michée, on ne va pas y tourner, chapitre 6 et verset 5. Il voulait qu'ils se rappellent d'un certain passage lors de cette traversée de désert. Et c'était à partir d'un lieu qui s'appelle Shittim jusqu'à Gilgal. Et Shittim, c'était un endroit où les Israélites, donc en plein désert, se sont tellement mal comportés, ils se sont laissés entraîner dans toutes sortes de perversions sexuelles. Ils ont fait un culte à Baal, et finalement, c'était un véritable dérapage au niveau moral, jusqu'au point où il aurait dû être complètement détruit. Tout le peuple méritait une destruction totale. Mais au lieu de ça, Dieu leur a fait quand même une leçon assez sévère. Ils étaient quand même à 24 000 à périr suite à cette dérapage. Et puis donc c'est à Shittim où ça s'est passé. D'accord? Donc il le dit, n'oubliez pas dans votre passage de Shittim à Gilgal. Parce qu'arrivé à Gilgal, c'était quand même l'entrée dans la terre promise. Et c'est là où ils devaient se rappeler de cette miséricorde de Dieu qui ne les avait pas détruits comme les méritaient, mais qui les avait quand même épargnés, à part de 24 000. Imaginez, hein, 24 000 comme ça qui sont balayés d'un seul coup. Tellement la sainteté et la pureté de Dieu étaient importantes, c'était la leçon première de cette petite expérience. Et puis, arrivés dans la terre promise, donc à Gilgal, ils se sont fait circoncire. Et donc, toute la honte de cette traversée du désert, toute l'opprobre, comme quoi ils étaient encore quelque part des esclaves, tout cela avait été enlevé. C'était enroulé, c'est un peu le mot que nous voyons donc à Gilgal. Et Dieu avait donc desséché ce Jourdain afin qu'ils puissent traverser. Et en traversant le Jourdain, on en a même parlé, je pense, il y a une quinzaine de jours, ils ont pu laisser des pierres au milieu du Jourdain, hein, comme des signes, comme des preuves du fait qu'ils étaient passés par là un jour. C'est pour que dans une génération future, enfin, père devant le fils et ainsi de suite, il pouvait les faire revenir sur le Jourdain en disant, tiens, regardez, on y était nous, on est passé par là, tu vois les pierres qui sont là? Et les enfants, ils auraient regardé à travers la surface de l'eau en voyant quand même que c'était vrai. Dieu délivre des déserts. Il avait fait ça pour Israël. Et puis, ça m'a rappelé un peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé cette semaine. C'était une quinzaine de jours après le fameux raz de marée en Asie du Sud, là, dans l'océan Indien. On a parlé quand même d'un jeune qui avait été balayé là, sous la mer pendant une quinzaine de jours. Dans un premier temps, il s'accrochait à une espèce d'arbre, c'était ça. Et puis, je ne sais pas, après plusieurs jours, d'un seul coup, il voit de près une espèce de radeau, là. Ou je ne sais pas, une barque qui est renversée, moitié cassée, qui passe devant là où il était. Et puis, il se lance en plein océan. Hein, et il s'agrippe au radeau parce qu'il était convaincu qu'il y avait quelqu'un là-dessus, parce que normalement, un barque ne passe pas comme ça sans qu'il y ait quand même quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Je ne sais pas si c'était le 8e ou le 9e jour. Et puis, mais arrivé sur ce radeau, il a trouvé un stock d'eau, des bouteilles d'eau. Je ne sais pas si c'était du Badois ou du Vichy, là. Enfin, ils ne l'ont pas dit. Hein. Mais en fait, avec cette eau, il a pu survivre encore quelques jours. Donc 10, 11, 12. Et puis le 15e jour, c'est ça qu'on a annoncé, hein, on l'a retrouvé là. Je ne sais pas, il était à des centaines de kilomètres. Une histoire incroyable. Et puis il est revenu, il était en bonne forme. Il a pu même monter là sur le bateau là, qu'il avait finalement retrouvé. Il n'était pas en trop mauvaise santé. Un miracle incroyable. Mais vous n'avez pas entendu la moitié de l'histoire. Parce que moi, sur Internet, sur un site chrétien, j'ai trouvé que ce jeune homme, vous savez ce qu'il faisait? Il priait. C'était un homme de Dieu. Il criait. Il criait à Dieu pendant toutes ces journées-là d'être quand même livré à lui-même. Et il disait au Seigneur, « Seigneur, j'ai tellement envie de retrouver mes vieux parents, Seigneur, parce que je veux m'en occuper. » Je ne sais même pas s'il les a retrouvés. Mais enfin, quelque part, Dieu a entendu son cri. Et puis, il a fait passer un petit radeau, moitié détruit, sous lequel il a pu quand même monter pour que la vie soit sauve. C'est incroyable. Alors, pour moi, ça veut dire que Dieu répande à nos cris. On peut être en plein désert, en pleine mer, comme oui, il y a beaucoup d'autres, malheureusement, qui ont laissé leur vie. Hein? Je n'ai que le répéter, nous sommes tous au courant de cette plaie terrible-là, qui est encore béante, là, en rapport avec cette tragédie. Mais les déserts aussi, ce sont des lieux de silence. Ce sont des lieux de solitude. Et en retrouvant dans le texte, donc c'est Luc, le premier chapitre de Luc, l'histoire donc de Zacharie et d'Élisabeth, je me suis dit, là, c'est quand même un cas de figure assez particulier, parce que c'est une période qui arrive suite à 400 ans de silence. C'est-à-dire, il n'y avait pas de voix prophétique, hein. Rien qui se passait, aucune écriture. Bon, déjà, on avait bouclé l'Ancien Testament. Mais en fait, pendant 400 ans, il n'y a rien qui bougeait. C'était le désert, si on peut le dire. Et puis, au début de l'évangile de Luc, nous retrouvons encore un désert, mais vécu par un couple. Un couple qui n'avait pas d'enfant. Élisabeth était stérile, qui avait un âge quand même assez avancé. Et qui se posait toutes sortes de questions en rapport avec la situation. Le papa qui servait quand même fidèlement dans le temple, donc Zacharie. Et puis, un beau jour, c'est le premier chapitre à partir du verset 11. « Alors lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. » Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, c'est ta prière, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. » C'est pas mal, hein? Et puis au verset 17, oui, il y a même le faire-part là, qui est inclus dans ce message d'origine. Peut-il faire pas comme quoi il allait ramener le cœur des pères vers les enfants. Zacharie reçoit tout ça d'un seul coup comme une espèce de révélation de Dieu par le biais de cet ange. Et il avait du mal à croire. Mais non, parce que ça ne peut même arriver comme ça. Après tout, toutes ces années de désert, de stérilité, sans rien trouver. Non. Et puis, il ne croyait pas vraiment. Donc, il a demandé un signe. Et il a eu son signe. C'était quoi? Encore du silence. Il n'avait pas le droit de parler. Il était rendu muet par Dieu pendant cette période. Et puis, donc, nous lisons, donc, pour aller plus vite, qu'il est sorti du... il est sorti donc de son service, c'est quelques jours, il ne pouvait pas parler, et les gens, tout ce qu'il pouvait faire, c'était des signes, imaginant donc la frustration chez lui aussi bien que chez sa femme, mais au verset 23 et 24, je pense que c'est parfaitement discret de la part du récit biblique. Lorsque ses jours de service furent achevés, il retournait dans sa maison. Il retrouvait sa femme. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Il y a des moments donc de fécondité miraculeuse qui arrivent. C'est peut-être après des années, des mois, des années donc de stérilité, de difficultés. Et d'un seul coup, Dieu féconde par son Saint-Esprit. Enfin, en se servant bien sûr du papa. Excusez-moi, on n'est pas encore à l'histoire de Marie et Joseph. Et puis, c'est remarquable comme histoire. Parce qu'au verset 19, dont l'ange déjà lui a parlé de cette bonne nouvelle. Et c'était quelque part prophétique, parce que ça veut dire l'évangile dans l'originel. Et donc, dans ce premier chapitre de Luc, nous avons une espèce d'embryon prophétique de tout ce que Dieu avait à cœur, pas seulement depuis 400 ans, mais depuis des milliers d'années, de faire venir Jésus. Parce que Marie, donc la maman de Jésus, vient dans le coup. Hein? Elle vient quand même passer... elle vient passer 3 mois chez Élisabeth à la fin de sa grossesse, dans la grossesse d'Élisabeth. C'est remarquable. Il y a une espèce ici quand même de partenariat ou de fusion de plusieurs ruisseaux qui arrivent d'un seul coup. Et puis... Donc, Élisabeth va aussi, elle, à son tour, dans cette période donc de silence... mais d'un silence béni parce qu'elle sait qu'elle est enceinte. Donc pendant 3 mois, et après le cinquième mois, elle sort de ce petit désert, mais en fait c'est plutôt un désert de préparation quand même d'enfants. Et puis, de fil en aiguille, nous voyons que Marie, Joseph arrivent parce qu'ils sont quelque part aussi tributaires de cette même histoire. D'accord ? Et Élisabeth et Zacharie, ils se retrouvent avec un petit enfant qui s'appelle Jean. Jean-Baptiste, c'était qui? C'était le plus grand prophète. C'était celui qui a crié comme une voix dans le désert. Une voix dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur en citant Ésaïe chapitre 40, pardon, versets 3 à 5. Tout cela parce qu'il y avait un couple avec un saint qui était disposé à recevoir la bénédiction de Dieu. Tout cela parce que Dieu voulait faire avec 2 coups de canon, il voulait faire arriver dans ce désert de silence la meilleure nouvelle qu'on a jamais connue, donc la naissance de Jésus-Christ tous les mêmes. Mais il a fallu un couple avec le petit bébé Jean-Baptiste, qui était obéissant. Dieu cherche chez vous cette disponibilité. Il cherche toujours des couples, il cherche toujours quand même des personnes, des célibataires qui sont d'accord à rentrer quand même, malgré tout ce que vous vivez comme silence, comme peut-être en vous sentant écarté, sans qu'on puisse vous comprendre. Vous savez, Zacharie, il ne pouvait même pas parler. Puis à un moment donné, il a parlé. Ça, c'était le premier coup de canon. Et vous, vous allez parler. Vous allez parler. Dieu va te donner une voix renouvelée et la possibilité de témoigner du fait qu'il vous a béni d'une manière incroyable. Des fois, il faut passer par une période de silence et même de stérilité pour pouvoir s'en sortir avec la gloire de Dieu. Amen. Ok, c'est bon. Je pense à ce pasteur américain là, qui nous a raconté quelque chose cette semaine. Il s'est retrouvé, donc, il y a plusieurs années, à Jérusalem, devant le mur de Lamentation. Il nous disait que c'était vraiment incroyable parce qu'il n'y avait personne autour de lui. Il était tout seul. Il ne comprenait plus pourquoi. Et puis, d'un seul coup, il y avait deux rabbins qui se sont approchés de lui. Et on l'a invité de rentrer dans un petit tunnel dans le mur de Lamentation à Jérusalem. Il est entré là-dedans. Donc, finalement, le silence a changé quand même en accueil parce qu'il y avait encore, je pense qu'il a dit, une vingtaine de rabbins à l'intérieur de ce tunnel. Et d'un seul coup, ils sont venus envers lui. On lui a imposé les mains. On a prié pour lui, donc un pasteur évangélique américain, vous savez. Et puis, on a parlé en langue. Et il y avait toutes sortes de choses qui sont passées à l'intérieur du mur de Lamentation. Il était ébahi. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. En sortant de là, il nous a regardé, je pense que c'était encore au petit déjeuner là, et il a dit, à partir de ce moment-là, tout est parti. Non mais, tout a décollé. Il a maintenant, tu me rappelles, une école biblique pour les Palestiniens, une école biblique pour les Juifs messianiques, une troisième école biblique en Israël, hein, je parle seulement en Israël, hein, sans parler d'Afrique. Et tout est parti, parce qu'il était là, dans un moment de silence et de solitude. Il a retrouvé quand même la sortie du désert de Dieu pour ce ministère de formation en Israël. Vous savez, il y a des rabbins, petite parenthèse, hein, qui sont touchés, visités par le Saint-Esprit et qui n'osent pas annoncer leur foi dans le Messie parce qu'autrement, ils sont quand même au risque, à la risque de leur vie. Mais ils sont là, en train de prier ensemble dans le secret. Dans le désert, hein, souvent dans le désert. Là, ce jour-là, ils étaient quand même... dans ce mur d'alimentation. Amen. Juste une dernière chose. Le désert aussi, c'est souvent une période où Dieu nous amène quand même à faire preuve d'obéissance et de foi parce qu'il veut nous bénir. Il veut nous amener à des situations dans lequel on n'aurait jamais su rentrer avant parce que on n'a pas eu peut-être la foi et la confiance qu'il faut, parce que sans la foi, c'est impossible à être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible à faire plaisir à Dieu. Tu ne peux pas toucher des cadeaux. Moi, je sais, je ne sais pas pour vous, moi, je suis souvent bloqué, empêché de recevoir ce que Dieu a pour moi parce que la foi est à zéro. Enfin, la foi est souvent troublée, n'est-ce pas, hein, par les situations donc d'angoisse, de difficultés, de toutes sortes de craintes qui nous envahissent. Et Dieu, il a toujours ses cadeaux, même en plein désert. Et je pensais à David à Ziglag. C'était aussi dans le désert de Negev, où il se faisait voler par les Amalécites, qui venaient quand même de piller et de brûler cette ville de Ziglag. C'est en 1 Samuel chapitre 30, il venait de se faire enlever tout ce qu'il avait comme bien, ses femmes, ses enfants, tout était parti, tout le butin était parti chez l'ennemi. Et puis on voit quand même deux choses, hein, il y a quand même deux clés importantes qui ouvrent quand même cette possibilité de pleine restauration, si je l'appelle ainsi. Vous allez voir pourquoi. Si vous connaissez pas l'histoire, donc déjà, il cherchait la face de Dieu en plein désarroi. David, le roi, cherchait la face de Dieu. Est-ce que je dois le poursuivre ou non? Dieu lui a répondu, oui, vas-y, tu vas pouvoir les poursuivre et gagner. Deuxième chose, en faisant quand même cette poursuite, ils sont tombés sur une petite... un esclave égyptien qui avait été abandonné par son maître dans une espèce de champ en plein désert. Normalement, vous savez, avec 600 hommes, tu aurais dû le laisser de côté. Un petit bonhomme comme ça, il était à moitié mort. Hein. Il n'avait pas bu ni mangé depuis 3 jours et 3 nuits. En fait, en s'arrêtant pour lui donner à manger et à boire, et vous avez même le menu imprimé là dans le texte. Il a un bon gâteau raisin, je sais pas, de l'eau, c'est incroyable. Vous avez la raison pour laquelle le Saint-Esprit a mis ça dans la parole. Enfin, il a retrouvé toutes ses forces et c'est lui qui les a amenés jusque là où il y avait l'ennemi, les Amalécites. Parce qu'en fait, il a été avec eux. Puis là, il s'est laissé un peu abandonner parce qu'il était malade. Et puis nous lisons que David et la troupe qui s'était réduite quand même à 400 hommes au lieu de 600 parce qu'il y en avait qui étaient fatigués. Ça peut aussi nous arriver. Mais en fait, par après coup, même ceux qui étaient fatigués et ceux qui avaient été restés à la maison, ils ont pu profiter aussi de ce butin. Mais David donc a trouvé l'ennemi en flagrant délit donc de faire la fête avec tout ce butin. Et ils ont su rentrer là-dedans. Et c'est remarquable ce texte, verset 18, 1 Samuel 30, David a tout délivré. Il a retrouvé tout le butin, il a retrouvé ses enfants et ses femmes. Et finalement, en chantant dans les rues, ou dans le désert là plutôt, voilà le butin de David. 24 heures avant, il avait été quand même dépouillé de tout, tout a été volé. Et là, d'un seul coup, il retrouve tout. Amen. Tu peux tout retrouver. Tu vas tout retrouver avec le Seigneur. Tout ce que l'ennemi a volé dans ton désert personnel, tu peux le retrouver si tu le veux. Il n'y a rien qui a été volé qui ne peut être récupéré avec le Seigneur. Petite histoire pour terminer, c'est personnel. Nous avons un fils donc qui est revenu à la maison pas pour des raisons de dépannage ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il a trouvé un travail en or qui lui était quand même nécessaire à Villeneuve-Tascq. Donc il a dû se dire, tiens, j'ai des parents à côté de Villeneuve-Tascq, je vais en profiter quand même. Et puis c'est intéressant parce que quelqu'un m'a dit aussi, tiens, c'est bizarre, ton fils, il revient quand même dans la même région, il va se restaurer ou se ressourcer en venant comme ça. Parce qu'il fait un Tim, pour ne pas le dire, n'a pas vécu vraiment une vie très heureuse ici dans cette région. On ne sait pas pourquoi, mais en fait, on peut le dire, il avait raté sa scolarité, et en France et en Belgique. Il n'a pas su vraiment répondre donc à certaines choses. Et là, il se retrouve là depuis quelques semaines dans une boîte très importante avec une avec un travail vraiment passionnant. Et je me souviens dans les premiers jours de cette embauche là, il me disait comme ça que finalement ça n'allait pas très bien parce que son patron immédiat, enfin son chef immédiat n'était pas tellement gentil et puis il semblait quand même bloquer beaucoup de choses. Et un matin lorsque je l'ai déposé là à Calmette au métro, je ne sais pas, j'ai dû prier ou j'ai dû dire quelque chose, j'ai senti quand même qu'il y avait un combat. Et puis le soir il est rentré et puis il m'a annoncé, tu as dit c'est quoi papa? C'est pas le petit-fils maintenant, c'est un homme comme moi. Mon patron, on l'a mis dehors. Enfin, le chef, il a démissionné, on ne voit plus de lui. J'ai dit, c'est pas possible. Si, Dieu, enfin, j'ai dit Dieu parce qu'on avait prié pour ça, avait ouvert un peu le chemin pour qu'il puisse retrouver quand même plus de liberté, plus de possibilités dans cette boîte. Encore une chose, c'est récent. J'ai dit qu'il n'a pas passé de bons moments à l'école. Il a quand même fait l'école. Mais en fait, il est rentré, c'était cette semaine, je pense, en nous racontant que finalement, il avait eu affaire là, avec quelqu'un dans la boîte depuis quelques semaines qui a dû voir son nom imprimé quelque part parce que ce jour-là, donc semaine dernière, cette personne, donc un collègue de travail, lui a dit, écoute, je pense que nous étions dans la même classe à Saint-Pierre à Lille, ensemble, il y a, je ne sais pas, une quinzaine d'années ou plus que ça. Il a même retrouvé un copain de classe. Vous savez, un copain de classe, c'est quoi? C'est raconter quand même comment ils ont bombardé le prof avec toutes sortes de bricoles. Apparemment, oui. C'est... Non mais, en tant que père, il y avait peut-être, oui, il y a eu des choses à réparer dans notre rapport entre père et fils. Je ne m'attendais pas à retrouver mon fils que j'ai pu ramener, que je peux déposer au métro, que je peux rechercher des fois donc le soir. C'est incroyable. C'est parce que Dieu sait nous délivrer de tout. Même si tu n'as réussi en rien du tout, Dieu, il peut te restaurer. Tout ce que tu as vécu comme échec et comme difficulté, dans ta famille, en tant que parent, en tant que mère et père, Dieu veut le faire. Jean le Baptiste, il est venu pour ça, on l'a dit, pour que donc le cœur des pères se rapproche au cœur des enfants et vice versa. Et je termine là avec cette petite histoire là, parce que c'est quand même incroyable. Nous avons reçu ça par email ces derniers temps. Je pense que Jean-Luc et Annette, vous étiez venus, je ne sais pas pour. Un couple qui est en ministère quand même donc de guérison au niveau international, qui nous envoie un mot qu'on voit qu'ils se sont retrouvés dans une prison en Argentine ces derniers jours. Donc ils étaient en visite là pour apporter le ministère de guérison et de restauration donc, aux prisonniers. Ils se sont retrouvés dans une prison où le directeur, les bourreaux, tous les prisonniers sont convertis, remplis de l'esprit, est en train de vivre une véritable onction incroyable. Ben, je ne croyais plus mes yeux en lisant ce texte. 100%. À 100%, justement. Dans tous les sens, oui, du terme. Et puis, eux qui voulaient apporter quelque chose à ces prisonniers, mais c'est les prisonniers qui ont prié pour ce couple. Ils sont tombés dans le repos de l'esprit. Et puis, aussi, qui ne reçoivent rien du tout au niveau pécunier, vous savez, à l'intérieur du prison, mais ils reçoivent des fois des petits cadeaux, là, je ne sais pas, la famille qui passe peut-être. Alors, ils ont toute une gestion donc, de fonds à l'intérieur du prison avec lequel ils bénissent donc, la mission à l'extérieur. Ils font une prière 24 heures sur 24 dans cette prison. Toujours 4-5 prisonniers la nuit qui font les veillées comme ça. Dieu est capable de tout restaurer. Amen. Ian Elizabeth Clifford, Dieu est capable de tout restaurer. Amen. Josette, Christine, Jacques, bon, on va pas nommer tout le monde. Vous avez compris. Ça fait mal lorsque l'ennemi nous vole tellement de choses. Dieu peut et veut tout restaurer. Il est le Rédempteur, pas pour rien, mais pour acheter tout. On vient de le fêter ici. Il veut tout racheter dans ta vie et dans ma vie aussi. Jésus était tenté dans le désert. Il est sorti de son désert victorieux à 100%. Toi, tu peux sortir à cause de lui, de ton désert, victorieux, béni, à 101%. Ésaïe, chapitre 35. C'est une prière de la part de nous tous. Ça parle de comment Dieu veut refleurir. Chapitre 35, verset 1. Si vous y êtes là, on va le lire ensemble. Mais au lieu de dire le désert, on va proclamer mon désert. Mon désert, on y va? Mon désert et mon pays aride s'égayeront. Ma steppe tressaillera d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Amen. Et puis le verset 6. Je le lis. Alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet triomphera, car les eaux jailliront dans le désert et des torrents dans l'Arabie. Le mirage se changera en étang et la terre de la soif en source d'eau. Amen. Seigneur, je proclame ça maintenant sur nous tous. Nous voulons, Seigneur, en plein désert, te dire que oui, nous t'attendons. Enfin, c'est plutôt toi qui nous attends, pour que nous puissions couler, rentrer dans cette source d'eau, ce ruisseau que tu mets en plein désert. Dans chaque vie ici, Seigneur, je le proclame maintenant, pour chaque vie, chaque situation, source d'eau, au nom de Jésus-Christ. De nouvelles sources, des temps de bénédiction, de guérison et de restauration. Sur chacun, sur chacune, viens Saint-Esprit, viens maintenant. Là où il y a désespoir, tu n'as pas su croire, tu n'as pas su comment te confier, mais Jésus est là encore. Il te fait miséricorde et il ouvre sa bouche, qui est la source de sa parole. Et c'est une parole donc de délivrance et de bénédiction en plein désert. Alléluia. Reçois, reçois maintenant. Reçois donc cette source d'eau vive. Ah, là où tu es, reçois-le. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Ça va couler là. Je le sens là. Ça jaillit. Ça jaillit là maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui.